Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud. On revient sur les enjeux de ce pré-sommet avec notre grand invité international, Édouard Dupénoit. Vous recevez Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et enseignant à l'Université du Cap.
Carlos Lopez, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous accorder de votre temps ce matin sur Radio France Internationale. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 se retrouvent à compter d'aujourd'hui et pour deux jours à Johannesburg en Afrique du Sud. Ou du moins presque tous, puisque celui dont on parlera peut-être le plus, c'en est un qui est absent. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne fait pas le déplacement. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette absence ?
Oui, c'est assez significatif, mais je crois qu'il faut ajouter le fait que le secrétaire d'État au Trésor, Scott Benson, a aussi décidé de ne pas venir à Johannesburg pour la réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales. Donc, nous avons vraiment une position claire de la part des États-Unis par rapport à l'Afrique du Sud, mais aussi par rapport au G20. Je pense que l'absence, elle est vraiment le coup dur qu'on attendait pour pouvoir effectivement à partir de maintenant voir le G20 comme en perte de vitesse et sans pouvoir influencer les grandes politiques internationales et les systèmes de coordination qui ont été mis en place depuis la crise de 2008-2009, la crise financière de 2008-2009.
Pour vous, c'est un camouflet pour le G20 tout entier et pas exclusivement destiné à l'Afrique du Sud, qui a été l'un des premiers pays directement visés par une mesure spécifique de rétorsion prise par le nouveau président américain. Il faut y voir un camouflet pour le G20 lui-même.
Oui. Je pense qu'effectivement, on s'attendait à ce que les relations avec l'Afrique du Sud soient un peu tendues, surtout à cause du fait que l'Afrique du Sud a été au devant de la scène par rapport à Israël et l'invasion de Gaza. Et donc, je pense qu'on s'attendait à un certain nombre de rétorsions de la part des États-Unis. Et effectivement, la présence d'Elon Musk à côté de Donald Trump ne fait qu'augmenter les possibilités que l'Afrique du Sud soit traitée en priorité, pas nécessairement du point de vue positif. Mais, cela dit, l'absence du G20 est significative au-delà de l'Afrique du Sud parce que c'est le seul mécanisme multilatéral qui permet un certain nombre de coordinations. Et donc, je pense qu'on avait vu déjà dans la présidence brésilienne une certaine hésitation de la part des États-Unis. Et ça, c'était avant la présence de l'administration actuelle. Et donc, c'est une perte de vitesse qui vient depuis un certain temps.
Vous parlez de la perte de vitesse du G20. Il y a quand même un certain nombre de ministres des Affaires étrangères qui vont faire le déplacement. Je pense à Sergueï Lavrov qui sera avec ses homologues chinois, avec ses homologues indiens. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu aussi sur place. Ça reste quand même un mécanisme ou un groupe qui réunit un certain nombre de décideurs haut placés.
Une chose, c'est la présence physique. Une autre chose, c'est ce que ce mécanisme a permis de développer depuis un certain temps en termes de décision. Et donc, vous savez qu'on a traversé pendant la pandémie une période très difficile du point de vue de la coordination économique et aussi du point de vue du commerce. Et nous avons senti que le G20 ne répondait plus avec la même vigueur, avec les mêmes caractéristiques qu'auparavant. Donc, la Russie, sa présence est un peu, disons, un jeu politique. Elle ne peut pas être présente dans d'autres mécanismes de coordination. Donc, elle a tout intérêt à y être. Les pays du BRICS, donc, ils seront en solidarité avec l'Afrique du Sud, comme ils étaient auparavant avec les deux présidences qui étaient aussi des BRICS, des pays avant l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. Mais nous savons que la plupart des lignes de continuité que les gens n'acceptent pas de vérifier avec toute la vigueur qui s'impose devant nous, sont des lignes de continuité d'une érosion du multilatéral, et donc le G20 en fait partie.
C'est-à-dire que pour vous, ça ne fonctionne plus. Est-ce que si je paraphrase ce que vous dites ou si je poursuis votre pensée, c'est presque une réunion ou un sommet qui n'est plus utile, qui n'a plus son utilité ?
Vous savez, le G20, c'est maintenant 300 réunions par an. avec, disons, une dispersion complète où on négocie dans le track principal, c'est-à-dire celui des Sherpas, pendant toute l'année en communiqué. Et donc, ce communiqué donc, revient à quelques paragraphes qui sont controverses, soit parce qu'on va ou pas dire telle chose par rapport, par exemple, à la guerre de l'Ukraine dans le cas actuel. Et donc, nous n'avons pas vraiment l'impression, et c'est aussi vrai pour toutes les négociations en termes de climat, toutes les négociations en termes de commerce, l'impression qu'on avance. Donc, il y a énormément d'énergie qui est dépensée pour quelques paragraphes et pour arriver quelquefois à des consensus complètement artificiels qui ne produisent pas grand-chose.
Mais est-ce que pour un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui a pris la présidence du G20 il y a de cela un peu plus de 2 mois, au mois de décembre dernier, ce n'est pas une des occasions les plus importantes ou une des meilleures occasions pour avancer son propre agenda? On sait que le pays est particulièrement sensible, notamment à la justice climatique, et que le continent africain ayant été touché ces derniers mois et ces dernières années par des catastrophes de grande ampleur, est-ce que ce n'est pas la meilleure occasion pour Pretoria d'avancer dans son agenda et dans ses volontés de meilleure justice climatique?
Je n'ai aucun doute que pour l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique du Sud, c'est extrêmement symbolique d'avoir la présidence du G20, d'autant plus que c'est la première fois que cela se fera avec la présence de l'Union africaine comme participant à part entière. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour pouvoir montrer un nouveau visage de l'Afrique et pouvoir avancer un certain nombre de priorités, notamment celles que vous avez mentionnées, mais aussi des aspects beaucoup plus concrets, comme par exemple les priorités que l'Afrique du Sud a données aux minerais critiques qui vont être effectivement essentiels pour que l'Afrique puisse se transformer, l'industrialisation verte, enfin un certain nombre de priorités qui ont été annoncées par l'Afrique du Sud et qui sont des priorités africaines. Mais ce que je constate, c'est que effectivement, ce boycott de la part des États-Unis vient dans un contexte qui est géopolitiquement très tendu. Et donc, c'est un peu raté déjà avant même de commencer.
Et tout ça est en fait essentiellement cosmétique à vos yeux, c'est-à-dire que ça ne pourra, à votre sens, déboucher sur rien de concret et rien de consensuel.
Sauf que cette tension, elle sert à quelque chose. Elle sert à montrer qu'effectivement, il faut changer de méthodologie. On voit la même chose dans les discussions climatiques. Donc, les COP qui réunissent 5 000 personnes ne marchent plus. Et donc, les gens sont là en train de discuter chaque fois des montants qui sont complètement faramineux et qui ne correspondent pas à la réalité, puisque personne n'a l'intention vraiment de faire sa partie et donc on ne progresse pas.
Et que le
Et
multilatéralisme ne fonctionne plus. Je suis obligé de vous interrompre, Carlos Lopez. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin sur Radio France Internationale.
merci, c'était un plaisir.
Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et enseignant à l'Université du Cap avec Édouard Le Penhoat.